Carnet d'un inconnu, sixième fichier. L'affaire, voyez-vous, est très simple. Je veux enlever Tatiana Ivanovna et l'épouser. Vous comprenez? Je regardais M. Mizintchikov entre les deux yeux et fus quelques instants sans pouvoir prononcer une parole.
Je dois vous avouer que je n'y comprends rien,
déclarai-je à la fin. Et d'ailleurs, je pensais avoir affaire à un homme sensé. Je n'aurais donc pu prévoir...
Ce qui signifie tout simplement que vous trouvez mon projet stupide, n'est-ce pas?
Du tout, mais... Oh, je vous en prie, ne vous gênez pas. Tout au contraire, vous me ferez grand plaisir d'être franc. Nous nous rapprocherons ainsi du but. Je suis d'accord qu'à première vue, cela peut paraître étrange. Pourtant, j'ose vous assurer que non seulement mon intention n'est pas si absurde, mais qu'elle est tout à fait raisonnable. Et si vous voulez être assez bon pour en écouter tous les détails, de grâce, je suis tout oreille. Du reste, ce ne sera pas long, voici. Je suis sans le sou et couvert de dettes. De plus, j'ai une sœur de 19 ans, orpheline, qui vit chez des étrangers sans autre moyen d'existence, et c'est un peu de ma faute. Nous avions hérité de 40 âmes, mais cet héritage coïncida par malheur à ma nomination au grade de cornette. J'ai commencé par engager notre bien, puis j'ai dépensé le reste à faire la noce. Je suis honteux quand j'y pense. Maintenant, je me suis ressaisi et j'ai résolu de changer d'existence. Mais pour ce faire, il me faut 100 000 roubles. Comme je ne puis rien gagner au service, comme je ne suis capable de rien et que mon instruction est presque nulle, il ne me reste qu'à voler ou à me marier richement. Je suis venu ici, pour ainsi dire, sans chaussures et à pied, ma sœur m'ayant donné ses 3 derniers roubles quand je quittais Moscou. Aussitôt que je connus Tatiana Ivanovna, une pensée germa dans mon esprit. Je décidai immédiatement de me sacrifier et de l'épouser. Convenez que tout cela est parfaitement raisonnable, d'autant plus que je le fais surtout pour ma sœur.
Mais alors, permettez, vous avez l'intention de demander officiellement la main de Tatiana Ivanovna?
Dieu m'en garde, je serai aussitôt chassée d'ici, et elle-même s'y refuserait. Mais si je lui propose de l'enlever, elle consentira. Pour elle, le principal, c'est le romanesque, l'imprévu. Naturellement, cet enlèvement aboutira à un mariage. Le tout est que je réussisse à la faire sortir d'ici.
Mais qu'est-ce qui vous garantit qu'elle voudra bien s'enfuir avec vous?
Oh, ça, j'en suis certain. Tatiana Ivanovna est prête à une intrigue avec le premier venu qui aura l'idée de lui offrir son amour. Voilà pourquoi je vous ai demandé votre parole d'honneur, que vous ne profiteriez point du renseignement. Vous comprendrez que ce serait péché de ma part de laisser passer une pareille occasion, étant donné surtout ces conjonctures où je me trouve.
Alors, elle est tout à fait folle.
Ah, pardon, fis-je en me reprenant. J'oubliais que vous aviez des vues sur elle.
Ne vous gênez donc pas, je vous en ai déjà prié. Vous me demandez si elle est tout à fait folle.
Que dois-je vous répondre?
Elle n'est pas folle, puisqu'elle n'est pas enfermée. De plus, je ne vois aucune folie à cette manie des intrigues d'amour. Jusqu'à l'année dernière, elle vécut chez des bienfaitrices, car elle était dans la misère depuis son enfance. C'est une honnête fille et douée d'un cœur sensible. Vous comprenez, personne ne l'avait encore demandée en mariage, et les rêves, les désirs et les espoirs, un cœur brûlant qu'elle devait toujours réprimer, le martyre que lui faisait endurer sa bienfaitrice, tout cela était bien pour affecter une âme tendre. Soudain, elle devient riche. Convenez que cela pourrait faire perdre la tête à n'importe qui. Maintenant, on la recherche, on lui fait la cour, et toutes ses espérances se sont réveillées. Tantôt, vous l'avez entendu raconter cette anecdote du galant en gilet blanc. Elle est authentique, et de ce fait, vous pouvez juger du reste. Il est donc facile de la séduire avec des soupirs et des billets doux. Et pour peu qu'on y ajoute une échelle de soie, des sérénades espagnoles et autres menus balançoires, on en fera ce qu'on voudra. Je l'ai tâté, et j'en ai obtenu tout aussitôt un rendez-vous. Mais je me réserve jusqu'au moment favorable. Cependant, il faut que je l'enlève d'ici peu. La veille, je lui ferai la cour, je pousserai des soupirs. Je joue de la guitare assez bien pour accompagner mes chansons. Je lui fixerai un rendez-vous dans le pavillon pour la nuit, et à l'aube, la voiture sera prête. Je la mettrai dans la voiture et en route. Vous concevez qu'il n'y a là aucun risque. Je l'amènerai dans une pauvre mais noble famille où l'on aura soin d'elle. Et pendant ce temps-là, je ne perdrai pas une minute. Le mariage sera bâclé en 3 jours. Il n'est pas douteux que j'aurai besoin d'argent pour cette expédition. Mais Yegor Ilitch est là, et il me prêtera 400 ou 500 roubles sans se douter de leur destination. Avez-vous compris ? Je comprends à merveille, dis-je après réflexion. Mais en quoi puis-je vous être utile ? Mais en beaucoup de choses, voyons. Sans cela, je ne me serais pas adressée à vous. Je viens de vous parler de cette famille noble mais pauvre, et vous pourriez me rendre un grand service en étant mon témoin ici et là-bas. Je vous avoue que sans votre aide, je suis réduit à l'impuissance. Autre question. Pourquoi avez-vous daigné jeter votre choix sur moi, que vous connaissez tout juste depuis quelques heures ? Votre question me fait d'autant plus de plaisir qu'elle me donne l'occasion de vous dire toute l'estime que j'éprouve à votre endroit. Répondit-il avec un sourire aimable. Fort honoré. Non, voyez-vous, je vous étudiais tantôt. Vous êtes un tantinet fougueux et aussi un peu jeune. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'une fois votre parole donnée, vous la tenez. Avant tout, vous n'êtes pas un obnoskin. Et puis je vois que vous êtes honnête et que vous ne me volerez pas mon idée. Excepté cependant le cas où vous seriez disposé à vous entendre avec moi. Je consentirai peut-être à vous céder mon idée, c'est-à-dire Tatiana Ivanovna, et serai prêt à vous seconder dans son enlèvement, à condition qu'un mois après votre mariage, vous me remettriez 50 000 roubles. Comment ? Vous me l'offrez déjà ? Certes ! « Je puis parfaitement vous la céder, au cas où cela vous sourirait. »« J'y perdrai, sans doute, mais l'idée m'appartient et les idées se paient. »« En dernier lieu, je vous fais cette proposition, n'ayant pas le choix. »« Dans les circonstances actuelles, on ne peut laisser traîner cette affaire. »« Et puis, c'est bientôt le carême, pendant lequel on ne marie plus. »« J'espère que vous me comprenez. »« Parfaitement. » Et je m'engage à tenir la parole que je vous ai donnée. Mais je ne puis vous aider dans cette affaire, et je crois de mon devoir de vous en prévenir. Pourquoi donc ? Mais comment, pourquoi ? M'écriai-je, donnant enfin carrière à mon indignation. Mais est-ce que vous ne comprenez pas que cette action est malhonnête ? Il est vrai que vous escomptez à juste titre la faiblesse d'esprit et la regrettable manie de cette demoiselle. Mais c'est précisément ce qui devrait arrêter un honnête homme. Vous-même, vous la reconnaissez digne de respect, et voici que vous abusez de son triste état pour lui extorquer 100 000 roubles. Il n'y a pas de doute que vous n'avez aucune intention d'être véritablement son mari, et que vous l'abandonnerez. C'est d'une telle ignominie que je ne puis comprendre que vous me proposiez une collaboration à votre entreprise. Oh mon Dieu, que de romantisme ! S'écria Mitzinchikov avec le plus sincère étonnement. D'ailleurs, est-ce même du romantisme ? Je crois tout simplement que vous ne me comprenez pas. Vous dites que c'est malhonnête, mais il me semble que tout le bénéfice est pour elle et non pour moi. Prenez seulement la peine de réfléchir. Évidemment, à votre point de vue, vous accomplissez un acte des plus méritoires en épousant Tatiana Ivanovna, répliquai-je en un sourire sarcastique. Mais certainement, un acte des plus généreux, s'exclama Mitzinchikov en s'échauffant à son tour. Veuillez réfléchir que c'est, avant tout, le sacrifice de ma personne que je lui fais en devenant son mari. Ça coûte tout de même un peu, je présume. Deuxièmement, je ne prends que 100 000 roubles pour ma peine, et je me suis donné ma parole que je ne prendrai jamais un sou de plus. N'est-ce donc rien ? Enfin, allez au fond des choses. Quelle vie pourrait-elle espérer ? Pour qu'elle vécût tranquille, il serait indispensable de lui enlever la disposition de sa fortune et de l'enfermer dans une maison de fous, car il faut constamment s'attendre à ce qu'un vaurien, quelque chevalier d'industrie orné de moustaches et d'une barbiche à l'espagnol, dans le genre d'Obnotskin, s'en empare à force de guitare et de sérénade, l'épouse, la dépouille et l'abandonne sur une grande route. Ici, par exemple, dans cette honnête maison, on ne l'estime que pour son argent. Il faut la sauver de ces dangereux aléas. Je me charge de la garantir contre tous les malheurs. Je commencerai par la placer sans retard à Moscou, dans une famille pauvre, mais honnête, une autre famille de ma connaissance. Ma sœur vivra près d'elle. Il lui restera environ 250 000 roubles, peut-être même 300. Aucun plaisir, aucune distraction ne lui manqueront. Bal, concert, etc. Elle pourra, s'il lui plaît, rêver d'amour. Seulement, sur ce chapitre-là, je prendrai mes précautions. Libre à elle de rêver, mais non de passer du rêve à l'action. Enini fini. À présent, tout le monde peut ternir sa réputation, mais quand elle sera ma femme, Madame Mindzinchikov, je ne permettrai pas qu'on salisse mon nom. Cela seul serait cher. Naturellement, je ne vivrai pas avec elle. Elle sera à Moscou et moi à Pétersbourg. Je vous l'avoue en toute loyauté. Mais qu'importe cette séparation? Pensez-y, étudiez-la donc un peu. Peut-elle faire une épouse et vivre avec son mari? Peut-on lui être fidèle? Elle ne vit que de perpétuels changements. Elle est capable d'oublier demain qu'elle est mariée aujourd'hui. Mais je la rendrais tout à fait malheureuse si je vivais avec elle, et si j'en exigeais l'accomplissement de tous ses devoirs conjugaux. Je viendrai la voir une fois par an, peut-être un peu plus souvent, mais non pas pour lui extorquer de l'argent, je vous l'assure. J'ai dit que je ne prendrais pas plus de 100 000 roubles. En venant la voir, pour 2 ou 3 jours, je lui apporterai une distraction, le plaisir et non l'ennui. Je la ferai rire, je lui conterai des anecdotes, je l'amènerai au bal, je la courtiserai, je lui ferai des cadeaux, je lui chanterai des romances, je lui donnerai un petit chien, je lui écrirai des lettres d'amour. Mais elle sera ravie de posséder un mari aussi romanesque, aussi amoureux, aussi gai. À mon avis, cette façon d'agir est très rationnelle, et tous les maris devraient s'y tenir. Les femmes n'aiment leurs maris qu'alors qu'ils ne sont pas là, et avec ma méthode, j'occuperai de la plus agréable façon et pour toute sa vie le cœur de Tatiana. Dites-moi ce qu'elle pourrait désirer de mieux. Mais ce sera une existence paradisiaque. Je l'écoutais en silence et avec un profond étonnement, comprenant à quel point il était impossible de discuter contre ce monsieur Mindzinchikov, convaincu jusqu'au fanatisme de l'équité et même de la grandeur du projet qu'il exposait avec l'enthousiasme d'un inventeur. Mais il subsistait un point délicat à éclaircir. « Avez-vous pensé, dis-je, qu'elle est presque fiancée à mon oncle, à qui vous infligerez un sanglant outrage en l'enlevant à la veille du mariage, et c'est encore à lui que vous comptez emprunter l'argent nécessaire à cet exploit ?»« Ah, nous y sommes !» s'écria-t-il fougueusement. « J'avais prévu cette objection. Mais d'abord et avant tout, votre oncle n'a pas encore fait sa demande. Je puis donc ignorer qu'on lui destine cette demoiselle. » Ensuite, veuillez remarquer que j'ai conçu ce projet, voici 3 semaines de cela, quand je ne connaissais rien des intentions des hôtes de la maison. En sorte que, moralement, le droit est pour moi, et que je suis même autorisée à juger sévèrement votre oncle, puisqu'il me prend ma fiancée, dont j'ai déjà obtenu un rendez-vous secret, notez-le bien. Enfin, n'étiez-vous pas en fureur, il n'y a qu'un instant, à la seule idée qu'on voulût marier votre oncle à cette Tatiana Ivanovna? Et voilà que vous voulez considérer comme un outrage le fait d'empêcher cette union. Mais c'est au contraire un grand service que je rends à votre oncle. Comprenez donc que je le sauve. Il n'envisage ce mariage qu'avec répugnance, et il en aime une autre. Pensez à la femme que lui ferait Tatiana Ivanovna, et elle aussi serait malheureuse, car il faudrait bien la contraindre et l'empêcher de jeter des roses aux jeunes gens. Si je l'emmène la nuit, aucune générale, aucun Foma Fomitch ne pourra plus rien faire. Rappeler une fiancée enfuie presque à la veille du mariage serait par trop scandaleux. N'est-ce pas un immense service que je rendrais à Yegor Ilitch ? J'avoue que ce dernier argument m'impressionna profondément. Et s'il lui fait dès demain sa demande, fis-je, elle serait officiellement sa fiancée, et sera trop tard pour l'enlever. Bien entendu, il serait trop tard. C'est donc pour cela qu'il faut travailler à ce que cette éventualité ne puisse se produire, et que je vous demande votre concours. Seul, j'aurai beaucoup de peine. Mais à nous deux, nous parviendrons à empêcher Yegor Ilitch de faire cette demande. Il faut nous y appliquer de toutes nos forces, quand nous devrions rouer de coups Foma Fomitch, pour attirer sur lui l'attention générale et détourner tous les esprits du mariage. Naturellement, cela ne se ferait qu'à toute extrémité, et c'est dans ce cas que je compte sur vous. Encore un mot. Vous n'avez parlé de votre projet à personne autre que moi ? Mitzinchikov se gratta la nuque avec une grimace mécontente. « J'avoue, répondit-il, que cette question m'est plus désagréable à avaler que la plus amère pilule. C'est justement que j'ai déjà dévoilé mon plan. Oui, j'ai fait cette bêtise. Et à qui ? À Obnovskine. C'est à peine si je peux y croire moi-même. Je ne comprends pas comment ça a pu se produire. Il était toujours près de moi. Je ne le connaissais pas. Lorsque cette inspiration me fut venue, une fièvre s'empara de moi, et comme j'avais reconnu dès l'abord qu'il me fallait un allié, je me suis adressée à Obnovskine. C'est absolument impardonnable. Mais que vous répondit-il ? Il sauta là-dessus avec ravissement. Seulement, le lendemain matin, il avait disparu, et il ne reparut que 3 jours après avec sa mère. Il ne me parle plus. Il fait plus, il m'évite. J'ai tout de suite compris de quoi il retournait. Sa mère est une fine mouche qui en a vu de toutes les couleurs. Je l'ai connue autrefois. Il n'est pas douteux qu'il lui a tout raconté. Je me tais et j'attends. Eux m'espionnent et l'affaire traverse une phase excessivement délicate. Voilà pourquoi je me hâte. Mais que craignez-vous d'eux ? Je ne crois pas qu'ils puissent faire grand-chose, mais en tout cas, ils me nuiront. Ils exigeront de l'argent pour payer leur silence et leur concours. Je m'y attends. Seulement, je ne peux ni ne veux leur donner beaucoup. Ma résolution est prise. Il m'est impossible de leur abandonner plus de 3 000 roubles de commission. Comptez. 3 000 roubles pour eux. 500 que coûtera le mariage. Il faudra payer les vieilles dettes. Donner quelque chose à ma sœur, que me restera-t-il sur les 100 000 roubles ? Ce serait la ruine. D'ailleurs, les Obnovskine sont partis. Ils sont partis ? Demandai-je avec curiosité. Aussitôt après le thé, que le diable les emporte. Demain, vous les verrez revenir. Allons, voyons, consentez-vous ? Je ne sais trop que répondre. L'affaire est très délicate. Vous pouvez compter sur mon absolue discrétion. Je ne suis pas Obnovskine. Mais je crois bien que vous n'avez rien à espérer de moi. Je vois, dit Mitzinchikov en se levant, que vous n'avez pas assez souffert de Foma Fomitch, ni de votre grand-mère, et que, malgré votre affection pour votre bon oncle, vous n'avez encore pu apprécier les tortures qu'on lui fait endurer. Vous ne faites que d'arriver. Mais attendons. Restez seulement jusqu'à demain soir, et vous consentirez. Autrement, votre oncle est perdu, comprenez-vous? On le mariera de force. N'oubliez pas qu'il pourrait faire sa demande dès demain, et qu'alors il serait trop tard. Il vaudrait mieux vous décider aujourd'hui. Vraiment, je vous souhaite toute réussite, mais pour ce qui est de vous aider, je ne sais trop.
Entendu, mais attendons jusqu'à demain,
conclut Mijinsikov avec un sourire moqueur. La nuit porte conseil. Au revoir. Je reviendrai vous voir demain de très bonne heure. Réfléchissez. Et il s'en fut en sifflotant. Je sortis presque sur ses talons pour prendre un peu l'air. La lune n'était pas encore levée, la nuit était noire et l'atmosphère suffocante. Pas un mouvement dans le feuillage. Malgré mon extrême fatigue, je voulus marcher, me distraire, rassembler mes idées. Mais je n'avais pas fait 10 pas que j'entendais la voix de mon oncle. Il gravissait le perron du pavillon en compagnie de quelqu'un et causait avec animation. Son interlocuteur n'était autre que Vido Pliassov. 11. Un grand étonnement.
« Mon oncle ! » m'écriai-je. « Enfin !
Mon ami, j'avais aussi grande hâte de te voir. Laisse-moi en finir avec Vido Pliassov et nous pourrons causer. J'ai beaucoup à te dire. »«
Comment ? Encore Vido Pliassov ? Mais renvoyez-le ! »
Patiente 5 ou 10 minutes, Serge, et je suis à toi. C'est une petite affaire à régler.
Mais il vous importune avec toutes ces bêtises,
fis-je très mécontent.
Que te dire, mon ami? Certainement que le moment est assez mal choisi pour venir m'ennuyer avec de telles bêtises. Voyons, Grigori, comme si tu ne pouvais pas choisir une autre occasion pour me faire tes plaintes. Qui puis-je? Aie au moins pitié de moi. Vous m'éreintez, tout ce temps que vous êtes. Je n'en peux plus, Serge. »
Et mon oncle fit des deux mains un geste de profond ennui.
« Quelle affaire a-t-il donc si importante qu'on ne puisse la remettre? J'ai grand besoin, mon oncle, de...
Eh, mon ami, on crie assez que je ne me soucie pas de la moralité de mes gens. Il se plaindra demain que je n'ai pas voulu l'écouter. Et alors... De nouveau,
il fit un geste. Voyons, finissons-en au plus vite. Je vais vous aider. Montons.
Que veut-il? Fis-je une fois que nous fûmes dans le pavillon.
Mon ami, son nom ne lui plaît pas. Il demande la permission d'en changer. Comment trouves-tu cela?
Son nom ne lui plaît pas?
Eh bien, mon oncle, avant que de l'entendre, permettez-moi de vous dire que c'est seulement dans votre maison qu'on voit de tels miracles. »
Et, les bras écartés, je fis un grand geste d'étonnement.
« Eh, mon ami, je sais aussi écarter les bras. À quoi cela sert-il ? »
dit mon oncle d'un ton fâché.
« Va, parle-lui, retourne-le. Depuis 2 mois qu'il m'ennuie. »
« Mon nom n'est pas convenable, » reprit Vido Pliassov.
« Mais pourquoi ? » lui demandai-je, ébahi.
« Parce qu'il a un sens indécent. »«
Pourquoi ? Et puis comment en changer ? On ne change pas de nom. »«
De grâce, peut-on porter un nom pareil ? » ?»«
Je veux bien qu'il soit assez bizarre, » continuai-je, toujours aussi étonné. « Mais qu'y faire ? Ton père le portait. »«
Ainsi donc, par la faute de mon père, il faut que je souffre toute ma vie. » Car mon nom m'attire d'innombrables désagréments, d'insupportables plaisanteries,
répondit Vido Pliassov. Je parierais, mon oncle, m'écriai-je avec colère. Je parierais qu'il y a du Foma Fomitch là-dessous.
Non, mon ami, non, tu te trompes. Il est bien vrai que Foma le comble de ses bienfaits. Il en a fait son secrétaire, et c'est là l'unique emploi de Grigori. Bien entendu, il s'est efforcé de le développer, de lui communiquer sa noblesse d'âme, et il en a fait un homme éclairé sur certains rapports. Je te raconterai tout cela.
C'est exact,
interrompit Vlido Plyassov. Foma Fomitch est mon bienfaiteur. Il m'a fait concevoir mon néant, et que je ne suis qu'un ver sur la terre. Il m'a enseigné ma destinée. Voici Seryoja, fit mon oncle avec sa précipitation accoutumée. Ce garçon vécut à Moscou depuis son enfance. Il était domestique chez un professeur de calligraphie. Si tu voyais comme il a bien profité des leçons de son maître. Il écrit avec des couleurs, avec de l'or. Il dessine. En un mot, c'est un artiste. Il enseigne l'écriture à Ilusha et je lui paie 1,50 rouble la leçon. C'est le prix fixé par Foma. Il donne des leçons chez d'autres propriétaires qui le rétribuent également. Aussi, tu vois comme il s'habille. En outre, il fait des vers. Eh bien, fis-je, il ne manquait plus que cela. Des vers, mon ami, des vers. Et ne crois pas que je plaisante. De vrais vers, des vers superbes. Il n'a qu'à voir n'importe quel objet pour faire des vers dessus. Un véritable talent. Pour la fête de ma mère, il en avait composé de si beaux que nous n'en revenions pas d'étonnement. Le sujet était pris dans la mythologie. Il y avait des muses, et c'était très bien rimé. Foma lui avait corrigé cela. Naturellement, je n'y vois pas de mal, j'en suis très content. Qu'il compose des vers s'il lui plaît, pourvu qu'il ne fasse pas de bêtises. C'est un père qui te parle, Grigori. Quand Foma eut connaissance de ses poésies, il le prit pour lecteur et pour copiste. En un mot, il lui a donné de l'instruction, et Grigori ne ment pas en l'appelant son bienfaiteur. Mais cela fit germer dans son cerveau et le romantisme et l'esprit d'indépendance. Foma m'a expliqué tout cela, mais je l'ai déjà oublié. J'avoue même que, sans l'intervention de Foma, j'allais la franchir. J'en suis honteux, vois-tu. Mais Foma est opposé à ce projet parce qu'il a besoin de ce serviteur et qu'il l'aime. Il m'a aussi fait remarquer que c'est un honneur pour moi d'avoir des poètes parmi mes gens, et que jadis il en était ainsi chez certains barons dans les époques de vraie grandeur. Bon, va pour la vraie grandeur. Je commence à l'estimer. Comprends-tu, mon ami? Mais ce qui est mauvais, c'est qu'il devient fier et ne veut plus adresser la parole aux domestiques. Ne te froisse pas, Grigori, je te parle en père. Il devait épouser Matryona, une jeune fille honnête, travailleuse et gaie. À présent, il n'en veut plus. Qu'il se soit fait une très haute idée de lui-même ou qu'il ait résolu de conquérir la célébrité avant de chercher femme ailleurs. C'est principalement sur le conseil de Foma Fomitch que j'agis de la sorte, nous fit observer Vido Plyassov. Comme il me veut du bien... Parbleu! Comment se passer de Foma Fomitch? M'écriai-je involontairement. « Eh, mon cher, l'affaire n'est pas là !» interrompit précipitamment mon oncle. « Mais on ne le laisse plus tranquille. La jeune fille n'est pas timide, elle a excité contre lui toute la domesticité qui s'en moque et le persifle, jusqu'aux enfants qui le traitent en bouffon. » « Tout cela par la faute de Matryona, » fit Vido Plyassov. « C'est une sotte, et moi il faut que je pâtisse parce qu'elle a mauvais caractère. » « Eh bien, Grigori, c'est ce que je disais, » continua mon oncle avec un air de reproche. « Ils ont trouvé à son nom une rime indécente, et voilà pourquoi ils me demandent s'il n'y aurait pas moyen d'en changer. Il prétend souffrir depuis longtemps de ce nom malsonnant. »« Un nom si vulgaire !» ajouta Vido Plyassov. « Bon, tais-toi, Grigori. Foma est de son avis, c'est-à-dire... Pas précisément, mais il y a lieu de considérer ceci. Au cas où nous publierions ces vers, ainsi que le projet de Foma, un pareil nom serait plutôt nuisible, n'est-ce pas? Alors, il veut faire éditer ces vers, mon oncle. Oui, c'est décidé. L'édition sera faite à mes frais. Le premier feuillet mentionnera qu'il est mon serf, et dans l'introduction, l'auteur exprimera en quelques mots toute sa gratitude envers Foma, qu'il a instruit et auquel le livre sera dédié. C'est Foma qui écrira la préface. Cela s'appellera « Les rêveries de Vido Plyassov ». Non, les gémissements de Vido Pliassov, corrigea le laquais. Eh bien, tu vois, les gémissements. Avec ce nom ridicule et qui, selon Foma, révolte la délicatesse et le bon goût. D'autant plus que tous ces critiques semblent très portés à la raillerie, et particulièrement Brambéus. Rien ne les arrête, et le nom leur serait un prétexte à colibé. Je lui dis qu'il n'a qu'à signer de n'importe quel nom. Cela se nomme, je crois, un pseudonyme. « Non, me répondit-il, ordonnez à toute votre domesticité de me donner un nouveau nom, un nom convenant à mon talent. » Et je parie que vous avez consenti, mon oncle.
Oui, Serioja, et principalement pour ne pas avoir de discussion avec eux.
Il y avait justement à ce moment-là un petit malentendu entre Foma et moi. Mais depuis ce temps, Grigori change de nom tous les 8 jours. Il choisit les plus délicats. Oleandrov, Tulipanov. Voyons, Grigori. D'abord, tu as voulu t'appeler Grigori Vierny. Et puis ce nom te déplut parce qu'un mauvais plaisant lui avait trouvé une rime fâcheuse. Il fut d'ailleurs puni sur ta plainte. Mais de combien de noms t'es-tu successivement affublé? Une fois tu prétendis être Oulanov.
Avoue que c'est là un nom stupide.
Cependant j'avais donné mon consentement, ne fût-ce que pour me débarrasser de lui. Et mon oncle se tourna vers moi. Pendant 3 jours, tu fus Oulanov. Tu as même usé toute une rame de papier à étudier l'effet que ça faisait en signature. Mais cette fois encore, tu n'eus pas la main heureuse. On découvrit une nouvelle rime désobligeante. Alors, quel nouveau nom avais-tu choisi? Je ne m'en souviens déjà plus.
Tantsev, répondit Vido Pliassov. S'il faut que mon nom ait quelque chose de sautillant, qu'il ait au moins une tournure étrangère. « Tantsev. »«
Parfait, Tantsev. J'ai encore consenti.
Seulement, du coup, on inventa une rime telle que je ne peux même pas la répéter. Aujourd'hui, il a trouvé quelque chose d'autre, je parie. Est-ce vrai, Grigori? Allons, à vous. »
« En effet, voici longtemps déjà que je voulais mettre à vos pieds un nouveau nom, mais beaucoup plus noble. »
« Et c'est ?»
« Est-ce Bouquetov ?»«
Mais tu n'as pas honte, Grigori, tu n'as pas honte? Un nom de pommade? Toi, un homme intelligent, c'est tout ce que tu as trouvé. Et sans doute après de laborieuses recherches. Allons, on voit ça sur les flacons de parfum. »
« Écoutez, mon oncle, » fis-je à demi-voix, « c'est un imbécile, le dernier des imbéciles. »«
Mais qu'y faire, mon cher ?» répondit tout bas mon oncle. Ils disent tous qu'il est remarquablement intelligent et que ce sont les nobles sentiments qui l'agitent.
Mais renvoyez-le pour l'amour de Dieu.
De grâce, Grigori, écoute-moi, dit mon oncle d'une voix aussi suppliante que s'il eût eu peur de Vido Pliassov lui-même. Réfléchis, mon ami. Je n'ai de temps que pour écouter tes plaintes. Tu te plains qu'on t'ait encore insulté. « Bon, je te donne ma parole de m'en occuper dès demain, mais pour le moment, va-t'en. Dieu soit avec toi. »« Attends, que fait en ce moment, Foma Fomitch ?»«
Quand je l'ai quitté, il se couchait, et il m'a ordonné, au cas où on le demanderait, de dire qu'il allait passer la nuit en prière.
« Eh bien, va-t'en, va-t'en, mon ami. »« Vois-tu, Serioja, il ne quitte pas Foma Fomitch, et je le crains un peu. » Les domestiques ne l'aiment pas parce qu'il va tout rapporter à Foma. Le voilà parti, mais demain il forgera quelques mensonges. Là-bas, mon cher, j'ai tout arrangé. Je me suis calmée. J'avais hâte de te rejoindre. Enfin, nous voici donc encore ensemble. Et il me serra la main avec émotion. Et moi qui te croyais fâché et prêt à prendre la poudre d'escampette. « J'avais donné ordre de te surveiller. »«
Ce Gavrilo, tantôt, crois-tu ? Et Falalei, et toi, tout en même temps. »« Mais, Dieu merci, je vais enfin pouvoir te parler à loisir, à cœur ouvert. »«
Ne t'en va pas, Serioja, je n'ai que toi. »« Toi et Korovkin. »
Enfin, mon oncle, qu'avez-vous arrangé là-bas? Et qu'ai-je à attendre ici après ce qui s'est passé? Je vous avoue que ma tête éclate. Et la mienne, donc? Voilà 6 mois que tout y est à la débandade dans ma tête. Mais grâce à Dieu, tout est arrangé. Primo, on m'a pardonné. On m'a complètement pardonné. À certaines conditions, il est vrai. Mais je n'ai presque plus rien à craindre désormais. On a pardonné aussi à Sakurka. Tu te rappelles, Sacha? Sacha! Sacha, ce tantôt! Elle a la tête chaude et s'était un peu laissée aller, mais c'est un cœur d'or. Dieu la bénisse. Je suis fière de cette fillette, Serioja. Quant à toi, on te pardonne aussi. Tu pourras faire tout ce qu'il te plaira. Parcourir toutes les pièces, te promener dans le jardin, à cette seule condition que tu ne diras rien demain, ni devant ma mère, ni devant Foma Fomitch. Je le leur ai promis en ton nom. Tu écouteras, voilà tout. Ils disent que tu es trop jeune pour... Ne te formalise pas, Sergueï. Tu es en effet très jeune. Anna Nilovna est aussi de cet avis. Il n'était pas douteux que j'étais fort jeune, et je le prouvais sur le champ en m'élevant avec indignation contre ces clauses humiliantes. « Écoutez, mon oncle, » m'écriai-je presque suffoquant, « dites-moi seulement une chose et tranquillisez-moi. Suis-je ou non dans une maison de fous ?»« Te voilà bien. Tu te mets tout de suite à critiquer. Tu ne peux te contenir, » s'écria-t-il affligé. « Il n'y a pas de maison de fous, mais on s'est emporté de part et d'autre. Voyons, conviens-en. Comment t'es-tu conduit? Tu te rappelles ce que tu as osé dire à un homme que son âge devrait te rendre vénérable? Des hommes pareils n'ont pas d'âge, mon oncle. Voyons, mon ami, tu dépasses la mesure. C'est de la licence. Je ne désapprouve pas l'indépendance de pensée, tant qu'elle reste dans les bornes du bon goût. « Mais tu dépasses la mesure. Et tu m'étonnes, Serge. »« Ne vous fâchez pas, mon oncle. J'ai tort, mais seulement envers vous. En ce qui concerne votre Foma... »« Bon, votre Foma, à présent. Allons, Serge, ne le juge pas si sévèrement. C'est un misanthrope, un malade, et voilà tout. Il ne faut pas se montrer trop exigeant avec lui. Mais en revanche, c'est un noble cœur. » C'est le plus noble des hommes. Tu en as encore vu la preuve tantôt. Et s'il a parfois de petites lubies, il n'y faut pas faire attention. À qui cela n'arrive-t-il pas? Je vous demanderai plutôt à qui ces choses-là arrivent. Ah, oh, tu ne cesses de répéter la même chose. Tu n'as guère d'indulgence, Serioja. Tu ne sais pas pardonner. Bien, mon oncle, bien, laissons cela. Dites-moi. « Avez-vous vu Nastasia Evgravovna ?»« Mon amie, c'est justement d'elle qu'il s'agissait. »« Mais voici le plus grave. Nous avons tous décidé d'aller demain souhaiter la fête de Foma. »« Sakurka est une charmante fillette, mais elle se trompe. »« Demain, nous nous rendrons tous auprès de lui, de bonne heure, avant la messe. » Ilusha va lui réciter une poésie, ça lui fera plaisir, ça le flattera. Ah, si tu voulais venir avec nous, toi aussi, il te pardonnerait peut-être entièrement. Comme ce serait bien de vous voir tous deux réconciliés. Allons, Serioja, oublie l'outrage. Tu l'as toi-même offensé. C'est un homme des plus respectables. Mon oncle, m'écriai-je, perdant patience. J'ai à vous parler d'affaires très graves, et vous le demande encore. Qu'advient-il en ce moment de Nastasia Evgrafovna? Eh bien, mais qu'as-tu donc, mon ami? C'est à cause d'elle qu'est survenue toute cette histoire, qui d'ailleurs n'est pas d'hier et dure depuis longtemps. Seulement, je n'avais pas voulu t'en parler plus tôt, de peur de t'inquiéter. On voulait la chasser, tout simplement. Ils exigeaient de moi son renvoi. Tu t'imagines ma situation? Mais grâce à Dieu, voici tout arrangé. Vois-tu, je ne veux rien te cacher. Ils m'en croyaient amoureux et se figuraient que je voulais l'épouser, que je volais à ma perte en un mot,
car ce serait en effet ma perte. Ils me l'ont expliqué. Alors, pour me sauver, ils avaient décidé de la faire partir. Tout cela vient de maman et d'Anna Nilovna. Foma n'a encore rien dit. Mais je les ai tous dissuadés, et j'avoue t'avoir déclaré officiellement fiancée à Nastenka. J'ai dit que tu n'étais venue qu'à ce titre. Ça les a un peu tranquillisés. Et maintenant, elle reste, à titre d'essai, c'est vrai, mais elle reste. Et tu as même grandi dans l'opinion générale quand on a su que tu recherchais sa main. Du moins, maman a paru se calmer. Seule, Anna Nilovna continue à grogner. Je ne sais plus qu'inventer pour lui plaire. En vérité, qu'est-ce qu'elle veut ? Mon oncle, dans quelle erreur n'êtes-vous pas ? Mais sachez donc que Nastasia Evgrafovna part demain, si elle n'est pas déjà partie. Sachez que son père n'est venu aujourd'hui que pour l'emmener. C'est dès à présent décidé. Elle-même me l'a déclaré aujourd'hui, et elle m'a chargé de vous faire ses adieux. Le saviez-vous ? Mon oncle restait là, devant moi, la bouche ouverte. Il me sembla qu'un frisson l'agitait, et que des gémissements s'échappaient de sa poitrine. Sans perdre un instant, je lui fis un récit hâtif et détaillé de mon entretien avec Nastia. Je lui dis ma demande et son refus catégorique et sa colère contre lui qui n'avait pas craint de me faire venir. Je lui dis que, par son départ, elle espérait le sauver de ce mariage avec Tatiana Ivanovna. En un mot, je ne lui cachai rien et j'exagérai même, intentionnellement, tout ce que ces nouvelles pouvaient avoir de désagréable pour lui, car j'espérais lui inspirer des mesures décisives à la faveur d'une grande émotion. Son émotion fut grande, en effet. Il s'empoigna la tête en poussant un cri. « Où est-elle ? Sais-tu ? Que fait-elle en ce moment ? » Parvint-il enfin à prononcer, pâle d'effroi. Puis il ajouta avec désespoir « Et moi, imbécile, qui venais ici bien tranquille, croyant que tout allait le mieux du monde. Je ne sais où elle est maintenant, mais tout à l'heure, quand ses cris ont éclaté, elle courut vous trouver pour vous dire tout cela de vive voix. Il est probable qu'on l'a empêchée de vous rejoindre. Évidemment, on l'en a empêchée. Que va-t-elle devenir ? Ah, tête chaude, orgueilleuse. Mais où va-t-elle ? Où ? Ah, toi, tu es bon. Mais pourquoi t'a-t-elle refusé ? C'est stupide, tu devrais lui plaire. Pourquoi ne lui plais-tu pas ? Mais réponds donc, pour l'amour de Dieu, qu'as-tu à rester ainsi ? Pardonnez-moi, mon oncle, que répondre à de pareilles questions ? Mais c'est impossible, tu dois l'épouser. Ce n'est que pour cela que je t'ai dérangé et que je t'ai fait venir de Pétersbourg. Tu dois faire son bonheur. On veut la chasser d'ici, mais quand elle sera ta femme, ma propre nièce, on ne la chassera pas. Où veut-elle aller ? Que fera-t-elle ? Elle prendra une place de gouvernante ? Mais c'est idiot ! Comment vivra-t-elle en attendant de trouver une place ? Le vieux a sur les bras 9 enfants qui meurent de faim. Elle n'acceptera pas un sou de moi si elle s'en va avec son père à cause de ses méchants commérages. Et qu'elle s'en aille ainsi, c'est terrible. Ici, ce sera un scandale, je le sais. Tout ce qu'elle a pu toucher d'argent a été mangé au fur et à mesure. C'est elle qui les nourrit. Je pourrais lui trouver une place de gouvernante dans une famille honnête et distinguée, avec ma recommandation. Mais où les prendre, les vraies familles honnêtes et distinguées ? C'est dangereux. À qui se fier ? De plus, la jeunesse est toujours susceptible. Elle se figure aisément qu'on veut lui faire payer le pain qu'elle mange par des humiliations. Elle est fière, on l'offensera. Et alors ? Et avec cela, pour peu qu'une canaille de séducteur se rencontre, qui jette les yeux sur elle, je sais bien qu'elle lui crachera au visage, mais il ne l'en aura pas moins offensé le misérable. Et la voilà soupçonnée, déshonorée. Et alors ? Mon Dieu, la tête m'en tourne. Mon oncle, lui dis-je avec solennité, j'ai à vous adresser une question. Ne vous en fâchez pas. Comprenez qu'elle peut résoudre bien des difficultés.
je suis même en droit d'exiger de vous une réponse catégorique.
Quoi ? Fais ta question.
Dites-le-moi franchement, sincèrement. Ne vous sentez-vous pas amoureux de Nastassia Evgrafovna et ne désirez-vous pas l'épouser ? N'oubliez pas que c'est là le seul motif des persécutions qu'elle subit ici.
Mon oncle eut un geste d'impatience à la fois énergique et fébrile.
Moi ? Amoureux d'elle ? Mais ils sont tous fous ! Ou bien c'est un véritable complot ?
Mais pourquoi donc t'aurais-je fait venir, sinon pour leur prouver qu'ils ont tous perdu la raison ?
Pourquoi chercherais-je à te la faire épouser ? Moi, amoureux, amoureux d'elle ! Mais ils ont tous perdu la tête, voilà tout !
Quoi qu'il en soit, mon oncle, laissez-moi vous parler à cœur ouvert. Très sérieusement, je n'ai rien à dire contre un pareil projet. Au contraire, si vous l'aimez, j'y verrai son bonheur. Alors que le Seigneur vous l'accorde et vous donne amour et prospérité.
Mais enfin, que dis-tu ?
Cria mon oncle avec une émotion qui ressemblait à de l'horreur.
Je suis stupéfait que tu puisses parler ainsi de sang-froid. Tu as toujours l'air pressé d'arriver, je l'ai déjà remarqué.
Mais c'est insensé ce que tu dis là. Voyons. Comment pourrais-je épouser celle que je regarde comme ma fille et que j'aurais honte de considérer autrement, car ce serait un véritable péché. Je suis un vieillard et elle, c'est une fleur.
Foma me l'a parfaitement expliqué en se servant de ces mêmes termes.
Mon cœur déborde pour elle d'affection paternelle et tu viens me parler de mariage. Il serait possible qu'elle ne me refusât pas par reconnaissance. Mais par la suite, elle me mépriserait pour en avoir profité. Je la mènerai à sa perte et je perdrai son affection.
Oui, je lui donnerai bien volontiers mon âme à la chère enfant. Je l'aime autant que Sacha.
Peut-être davantage, je l'avoue. Sacha est ma fille de par la force des choses. Nastia l'est devenue par affection. Je l'ai prise pauvre, je l'ai élevée. Mon ange défunt, ma chère Katia, l'aimait. Elle me l'a léguée pour fille. Je lui ai fait donner de l'instruction. Elle parle français. Elle joue du piano. Elle a des livres et tout ce qu'il lui faut.
Quel sourire elle a ! L'as-tu remarqué, Serge ? On dirait qu'elle veut se moquer, mais elle ne se moque point. Elle est très tendre, au contraire.
Je me figurais que tu allais arriver et te déclarer et qu'ils comprendraient tous que je n'ai aucune vue sur elle, qu'ils cesseraient de faire courir ces vilains bruits.
Alors elle pourrait vivre en paix avec nous, et comme nous serions heureux. Vous êtes tous deux orphelins, et tous deux mes enfants que j'ai élevés. Je vous aurais tant aimé. Je vous aurais consacré ma vie. Je ne vous aurais jamais quitté. Je vous aurais suivi partout.
Ah, pourquoi les hommes sont-ils méchants ? Pourquoi se fâchent-ils ? Pourquoi se haïssent-ils ?
Oh, que j'aurais voulu pouvoir leur expliquer cela ! Je leur aurais ouvert mon cœur ! Mon Dieu !
Mon oncle, tout cela est très joli, mais il y a un mais. Elle m'a refusé.
Elle t'a refusé ?
J'en avais presque le pressentiment qu'elle te refuserait, fit-il tout pensif. Puis il reprit.
« Mais non, tu as mal compris, tu as sans doute été maladroit. Tu l'as peut-être froissée, tu lui auras débité des fadaises. Allons, Serge, raconte-moi encore comment ça s'est passé. »
Je recommençais mon récit circonstancié. Quand j'en fus à lui dire que Nastenka voulait s'éloigner pour le sauver de Tatiana Ivanovna, il sourit amèrement.
« Me sauver ? » dit-il. Me sauver jusqu'à demain matin.
Vous ne voulez pas me faire entendre que vous allez épouser Tatiana Ivanovna ?
M'écriai-je très effrayé.
Et comment donc aurais-je obtenu que Nastia ne fût pas renvoyée demain ? Je dois faire ma demande demain. J'en ai fait la promesse formelle.
Vous êtes fermement décidé, mon oncle.
Hélas, mon ami, cela me brise le cœur, mais ma résolution est prise. « Demain, je présenterai ma demande. La noce sera simple. Il vaut mieux que tout se passe en famille. Tu pourrais être garçon d'honneur. J'en ai déjà touché deux mots pour qu'on ne te fît pas partir.
Que veux-tu, mon ami? Ils disent que cela grossira l'héritage des enfants.
Et que ne ferait-on pas pour ces enfants? On marcherait sur la tête pour eux, et ce n'est que justice.
Il faut bien que je fasse quelque chose pour ma famille. Je ne puis rester toute ma vie un inutile.
« Mais mon oncle, c'est une folle !»
m'écriai-je, m'oubliant. Mon cœur se serrait douloureusement.
« Allons, pas si folle que ça! Pas folle du tout! Mais elle a eu des malheurs.
Que veux-tu, mon ami? Je serais heureux d'en prendre une qui aurait sa raison.
Cependant, il en est qui, avec toutes leurs raisons...
Et si tu savais comme elle est bonne, quelle noblesse de sentiment !»«
Oh, mon Dieu, voilà donc qu'il se soumet !»
m'écriai-je avec désespoir.
« Mais que veux-tu que j'y fasse? On me le conseille pour mon bien. Et puis, j'ai toujours eu le pressentiment que tôt ou tard, je ne pourrais l'éviter et que je serais contraint à ce mariage. Cela vaut encore mieux que de continuer la dispute. » Et je te le dirai franchement, mon cher Serge, j'en suis même bien aise. Ma résolution est prise. C'est une affaire entendue et un embarras de moins. Et je suis plus tranquille. Vois-tu, quand je suis venue te trouver ici, j'étais tout à fait calme. Mais voilà bien ma chance. À cette combinaison, je gagnais que Nastasia restât avec nous. C'est à cette seule condition que j'avais consenti. Et voici qu'elle veut s'enfuir. Mais cela ne sera pas. »
Il frappa du pied et ajouta d'un air résolu. « Écoute, Serge, attends-moi ici, ne t'éloigne pas. Je reviens à l'instant. »«
Où allez-vous, mon oncle ?»«
Je vais peut-être la voir, Serge. Tout s'arrangera, crois-moi. Tout s'expliquera et... tu l'épouseras. Je t'en donne ma parole. »
Il sortit et descendit dans le jardin. De la fenêtre, je le suivis des yeux.
12. La catastrophe. Je restais seul. Ma situation était intolérable. Mon oncle prétendait me marier à toute force avec une femme qui ne voulait pas de moi. Ma tête se perdait dans un tumulte de pensées. Je ne cessais de songer à ce que m'avait dit Mijinchikov. Il fallait à tout prix sauver mon oncle. J'avais même envie d'aller trouver Mijinchikov pour tout lui dire. Mais où donc était allé mon oncle? Parti dans l'intention de se mettre à la recherche de Nastasia, il s'était dirigé dans le jardin. L'idée d'un rendez-vous clandestin s'empara de moi, me causant un désagréable serrement de cœur. Je me rappelais l'allusion de Mijinchikov à la possibilité d'une liaison secrète. Mais, après un instant de réflexion, j'écartai cette pensée avec indignation. Mon oncle était incapable d'un mensonge, c'était évident. Mais mon inquiétude grandissait. Presque inconsciemment, je sortis et me dirigeai vers le fond du jardin en suivant l'allée au bout de laquelle je l'avais vu disparaître. La lune se levait. Je connaissais parfaitement le parc et ne craignais pas de m'égarer. Arrivé à la vieille tonnelle, au bord de l'étang mal soigné et vaseux, dans un endroit fort isolé, je m'arrêtai soudain. Un bruit de voix sortait de la tonnelle. Je ne saurais dire l'étrange sentiment de contrariété qui m'envahit. Je ne doutais pas que ces voix ne fussent celles de mon oncle et de Nastasia, et je continuai à m'approcher, cherchant à calmer ma conscience par cette constatation que je n'avais pas changé mon pas et que je ne procédais point furtivement. Tout à coup, je perçus nettement le bruit d'un baiser, puis quelques paroles prononcées avec animation, puis un perçant cri de femme. Une dame en robe blanche s'enfuit de la tonnelle et glisse après de moi comme une hirondelle. Il me sembla même qu'elle cachait sa figure dans ses mains pour ne pas être reconnue. Évidemment, j'avais été vue de la tonnelle. Mais quelle ne fut pas ma stupéfaction quand je reconnus que le cavalier sorti à la suite de la dame effrayée n'était autre qu'Obnotskine, lequel était parti depuis longtemps déjà, au dire de Mijinchikov. De son côté, il parut fort troublé à ma vue. Toute son insolence avait disparu. « Excusez-moi, mais je ne m'attendais nullement à vous rencontrer, » fit-il en bégayant avec un sourire gêné.
« Ni moi non plus, » répondis-je d'une voix moqueuse. « D'autant plus qu'on vous croyait parti. »
« Mais non, monsieur, j'ai seulement fait un bout de conduite à ma mère. Mais permettez-moi de vous parler comme à l'homme le plus généreux. »«
À quel sujet ?»«
Il est dans la vie certaines circonstances où l'homme vraiment généreux est obligé de s'adresser à toute la générosité de sentiment d'un autre homme vraiment généreux. J'espère que vous me comprenez. »«
N'espérez pas, je n'y comprends rien. »
« Vous avez vu la dame qui se trouvait avec moi dans cette tonnelle ?»«
Je l'ai vue, mais je ne l'ai pas reconnue. »«
Ah, vous ne l'avez pas reconnue. Bientôt je l'appellerai ma femme. »«
Je vous en félicite, mais en quoi puis-je vous être utile ?»«
En une seule chose, en me gardant le plus profond secret. » »«
Je me demandais quelle pouvait bien être cette dame mystérieuse. »
« N'était-ce pas... »«
Vraiment, je ne sais pas, » lui répondis-je.
« J'espère que vous m'excuserez, mais je ne puis vous promettre. »«
Non, je vous en prie, au nom du ciel, » suppliait Obnotskin.
« Comprenez ma situation, c'est un secret. Il pourrait vous arriver à vous aussi d'être fiancé. Alors, de mon côté... »«
Chut ! Quelqu'un vient. »«
Vous donc ?»
C'est sûrement Foma Fomitch,
chuchota Obnotskin, tremblant de tout son corps. Je l'ai reconnu à sa démarche.
Mon Dieu, encore des pas de l'autre côté, entendez-vous?
Adieu, je vous remercie, et je vous supplie.
Obnotskin disparut, et un instant après, mon oncle était devant moi.
Est-ce toi? Me cria-t-il tout frémissant.
Tout est perdu, Serge, tout est perdu.
« Qu'y a-t-il de perdu, mon oncle ?»«
Viens !» me dit-il, haletant, et me saisissant la main avec force, il m'entraîna à sa suite. Pendant tout le parcours qui nous séparait du pavillon, il ne prononça pas une parole, et ne me laissa pas non plus parler. Je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, et je ne me trompais pas. À peine fûmes-nous entrés qu'il se trouva mal. Il était pâle comme un mort. Je l'aspergeai d'eau froide en me disant qu'il s'était certainement passé quelque chose d'affreux pour qu'un pareil homme s'évanouît.
« Mon oncle, qu'avez-vous ? » lui demandai-je.
« Tout est perdu, Serge. Foma vient de me surprendre dans le jardin avec Nastenka au moment où je l'embrassais. »«
Vous l'embrassiez ? Au jardin ? »
m'écriai-je en le regardant avec stupeur.
« Au jardin, mon ami, j'ai été entraînée au péché. J'y étais allée pour la rencontrer, je voulais lui parler, lui faire entendre raison à ton sujet, certainement. Elle m'attendait depuis une heure derrière l'étang, près du banc cassé. Elle y vient souvent quand elle a besoin de causer avec moi. »«
Souvent, mon oncle ?»«
Souvent, mon ami. Pendant ces derniers temps, nous nous y sommes rencontrés presque chaque nuit. » Mais ils nous ont indubitablement espionnés. Je sais qu'ils nous ont guettés et que c'est l'ouvrage d'Anna Nilovna. Nous avions interrompu nos rencontres depuis 4 jours. Mais aujourd'hui, il fallait bien y aller. Tu l'as vu. Comment aurais-je pu lui parler autrement? Je suis allée au rendez-vous dans l'espoir de l'y trouver. Elle m'y attendait depuis 1 heure. J'avais besoin de lui communiquer certaines choses.
« Mon Dieu, quelle imprudence! Vous saviez bien qu'on vous surveillait !»«
Mais Serge, la circonstance était critique. Nous avions des choses importantes à nous dire. Le jour, je n'ose même pas la regarder. Elle fixe son regard sur un coin, et moi je regarde obstinément dans le coin opposé, comme si j'ignorais jusqu'à son existence. Mais la nuit, nous nous retrouvions, et nous pouvions nous parler à notre aise.
« Eh bien, mon oncle ?»
« Eh bien, je n'ai pas eu le temps de dire 2 mots, vois-tu. Mon cœur battait à éclater. Les larmes me jaillirent des yeux. Je commençais à essayer de la convaincre de t'épouser quand elle me dit « Mais vous ne m'aimez donc pas? Bien sûr que vous ne voyez rien. » Et soudain, voilà qu'elle se jette à mon cou, qu'elle m'entoure de ses bras et qu'elle fond en larmes avec des sanglots. « Je n'aime que vous, me dit-elle, et je n'épouserai personne. Je vous aime depuis longtemps, mais je ne vous épouserai pas non plus, et dès demain je pars pour m'enfermer dans un couvent. »
« Mon Dieu, elle a dit cela ? » Après, mon oncle, après.
Tout à coup, je vois Foma devant nous. D'où venait-il ? S'était-il caché derrière un buisson pour paraître au bon moment ?
Le lâche !
Le cœur me manqua. Nastenka prit la fuite, et Foma Fomitch passa près de moi en silence et me menaçant du doigt. « Comprends-tu, Serge ? Comprends-tu le scandale que cela va faire demain ?»«
Si je le comprends. »
« Tu le comprends !» s'écria mon oncle au désespoir, en se levant de sa chaise. « Tu le comprends qu'ils veulent la perdre, la déshonorer, la vouer au mépris ? Ils ne cherchaient qu'un prétexte pour la noter faussement d'infamie et pouvoir la chasser. Le prétexte est trouvé. On a dit qu'elle avait avec moi de honteuses relations. On a dit aussi qu'elle en avait avec Vido Pliassov. C'est Anna Nilovna qui a lancé ces bruits. Qu'arrivera-t-il à présent ? Que se passera-t-il demain ? Est-il possible que Foma parle ?
Il parlera, mon oncle, sans aucun doute.
Mais s'il parle seulement, murmura-t-il, se mordant les lèvres et serrant les poings. Mais non, je ne puis le croire, il ne dira rien. C'est un cœur vraiment généreux, il aura pitié d'elle.
Qu'il ait pitié d'elle ou non, répondis-je résolument.
Votre devoir est, en tout cas, de demander demain même la main de Nastasia Evgrafovna. » Et comme il me regardait, immobile, je repris. « Comprenez, mon oncle, que si cette aventure s'ébruite, la jeune fille est déshonorée. Il vous faut donc prévenir le mal au plus vite. Vous devez regarder les gens en face, hardiment et fièrement, faire votre demande sans tergiverser, vous moquer de ce qu'ils pourront dire et écraser ce Foma s'il a l'audace de souffler mot contre elle.
« Mon ami, s'écria mon oncle, j'y avais déjà pensé en venant ici.
Et qu'aviez-vous résolu ?
Cela même. Ma décision était prise avant que j'eusse commencé mon récit.
Bravo, mon oncle !
Et je me jetai à son cou.
Nous causâmes longtemps. Je lui exposai la nécessité, l'obligation absolue où il était d'épouser Nastenka, et qu'il comprenait d'ailleurs mieux que moi. Mon éloquence touchait au paroxysme. J'étais bien heureux pour mon oncle. Quel bonheur que le devoir le poussa. Sans cela, je ne sais s'il eût jamais pu s'éveiller. Mais il était l'esclave du devoir. Cependant, je ne voyais pas comment l'affaire pourrait bien s'arranger. Je savais, je croyais aveuglément que mon oncle ne faillirait jamais à ce qu'il aurait reconnu être son devoir. Mais je me demandais où il prendrait la force de lutter contre sa famille. Aussi m'efforçais-je de le pousser le plus possible, et je travaillais à le diriger de toute ma juvénile ardeur.
« D'autant plus, disais-je, que maintenant tout est décidé et que vos derniers doutes sont dissipés. Ce que vous n'attendiez pas s'est produit, mais tout le monde avait remarqué depuis longtemps que Nastasia vous aime. Permettriez-vous donc que cet amour si pur devint pour elle une source de honte et de déshonneur ?
Jamais. Mais, mon ami, un pareil bonheur m'est-il donc réservé ?
Cria-t-il en se jetant à mon cou.
Pourquoi m'aime-t-elle ? Pour quel motif ? Cependant, il n'y a en moi rien qui... Je suis vieux en comparaison d'elle. Je ne pouvais m'attendre. Cher ange. Écoute, Serge, tu me demandais tout à l'heure si j'étais amoureux d'elle. Est-ce que tu avais quelque arrière-pensée ?
Mon oncle, je voyais que vous l'aimiez autant qu'il est possible d'aimer. Vous l'aimiez sans le savoir vous-même.
Songez donc, vous me faites venir et vous voulez me marier avec elle dans l'unique but de l'avoir pour nièce et sans cesse près de vous.
Et toi, Serge, me pardonnes-tu ?
Oh, mon oncle !
Nous nous embrassâmes encore, j'insistai.
Faites bien attention, mon oncle, qu'ils sont tous contre vous, qu'il faut vous armer de courage et foncer sur eux tous, pas plus tard que demain.
Oui, oui, demain,
répéta-t-il tout pensif. Sais-tu, il faut faire cela avec courage. avec une vraie générosité, avec fermeté. Oui, avec fermeté.
Ne vous intimidez pas, mon oncle.
Je ne m'intimiderai pas, Serge. Mais voilà, je ne sais par où commencer.
N'y songez pas, demain décidera de tout. Pour aujourd'hui, appliquez-vous à reprendre votre calme. Inutile de réfléchir, cela ne vous soulagera pas.
Si Foma parle, il faut le chasser sur le champ et l'anéantir.
Il serait peut-être possible de ne pas le chasser. Mon ami, voilà ce que j'ai décidé. Demain, je me rendrai chez lui de fort bonne heure. Je lui dirai tout comme je viens de te le dire.
Il me comprendra, car il est généreux. C'est l'homme le plus généreux qu'il puisse exister.
Une seule chose m'inquiète. Ma mère n'aurait-elle pas prévenu Tatiana Ivanovna de la demande que je vais faire demain? C'est cela qui serait fâcheux.
Ne vous tourmentez pas au sujet de Tatiana Ivanovna, mon oncle.
Et je lui racontai alors la scène sous la tonnelle avec Obnotskine, mais sans souffler mot de Binzinchikov.
Mon oncle s'en trouva très étonné.
« Quelle créature fantasque, véritablement fantasque !» s'écria-t-il.
« On veut la circonvenir à la faveur de sa simplicité. »
Ainsi, Obnotskine. Mais il était parti. Oh, que c'est bizarre, follement bizarre.
Serge, j'en suis abasourdi. Il faudrait faire une enquête et prendre des mesures.
Mais es-tu bien sûr que ce soit Tatiana Ivanovna?
Je répondis que, d'après tous les indices, cela devait être Tatiana Ivanovna, bien que je n'eusse pu voir son visage.
Ne serait-ce pas plutôt une intrigue avec quelqu'une de la ferme que tu aurais prise pour Tatiana?
Ce pourrait très bien être Dasha, la fille du jardinier, une coquine avérée.
C'est pourquoi je t'en parle, elle est connue.
Anna Nilovna l'a guettée.
Mais non, puisqu'il disait vouloir l'épouser, la personne. C'est étrange.
Nous nous séparâmes enfin en nous embrassant et je lui souhaitais bonne chance.
Demain, demain, me répétait-il, tout sera décidé avant même que tu sois levé. J'irai chez Foma, j'agirai noblement, je lui découvrirai tout mon cœur, toutes mes pensées, comme à un frère. Adieu, Serge, va te reposer, tu es fatigué. Quant à moi, il est probable que je ne fermerai pas l'œil de la nuit.
Il sortit, et je me couchai tout aussitôt, extrêmement fatigué, anéanti, car la journée avait été pénible. J'avais les nerfs brisés, et avant de réussir à m'endormir complètement, j'eus plusieurs réveils en sursaut. Mais si singulières que fussent mes impressions de ce jour, je ne me doutais pas, en m'endormant, qu'elles n'étaient rien en comparaison de ce que mon réveil du lendemain me préparait.